France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Hélène Jégado, l'empoisonneuse en série. De 1833 à 1851, cette cuisinière bretonne, née dans le Morbihan, empoisonne 30, 40, peut-être même 80 personnes. Des femmes, surtout celles qui l'emploient, celles avec qui elle partage son sort de domestique, des enfants également. Pendant 18 ans, Hélène Jégado tue, tout en dédiant sa vie à servir les autres. On dit qu'elle est la plus grande tueuse en série de l'histoire. Il est vrai que son bilan justifie cette distinction. Un monstre, criminel par plaisir ou par vengeance. Au fil des décennies, puis des siècles, Hélène Jégado est devenue une légende. Alors retraçons son parcours, bien réel lui, pour tenter d'éclaircir les mystères qui l'entourent. Quel est le nombre de ses victimes? Comment a-t-elle pu agir aussi longtemps sans éveiller les soupçons? Et pourquoi tuait-elle? Notre invitée aujourd'hui est Justine Jouet, historienne et conférencienne, autrice du livre « La Jégado dans les pas d'une empoisonneuse en Bretagne », livre publié aux éditions Locus Solus en 2024. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire, Jeanne Maillard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Nous sommes le 26 février 1852 à Rennes. Une femme de 48 ans fait sa dernière toilette, boit son dernier verre de vin et contemple pour la dernière fois les premières lumières du jour qui se lèvent dans le silence de l'aube. Cette femme s'apprête à monter sur l'échafaud. Elle s'appelle Hélène Jégado. Dehors, des centaines de personnes attendent dans le froid les derniers instants de la plus grande tueuse que la France ait connue. Parmi elles, ce reporter du journal Les Tribunaux.
Hélène Jégado pleura. Mais déjà, elle ne semblait plus avoir qu'une vague conscience de ce qui l'entourait. Et il fallut l'aider à monter dans la voiture qui attendait à la porte de la prison. À peine y fut-elle, qu'elle laissa aller sa tête sur l'épaule du père Tiercelin, qui rapprochait le crucifix de ses lèvres. Une foule immense attendait sur le Champ de Mars. À partir du moment où la fatale charrette apparut, le silence le plus profond a régné dans la foule. Quelques minutes après, la justice humaine était accomplie et la foule s'écoulait en silence, tout émue de ce terrible spectacle.
Hélène Jégado, née le 17 juin 1803. Avec un frère, Joachim, et deux sœurs, Anna et Marie-Jaquette, la petite fille grandit au bord de la mer, à Plouinec, dans le Morbihan, au sein d'une famille de cultivateurs sans le sou. Après la mort de ses parents, Hélène est placée chez le père Conan, curé du presbytère de Séguin, un village à 50 km dans les terres. Elle a 11 ans, mais au lieu de jouer avec d'autres enfants ou d'aller à l'école, il lui faut passer la serpillière et éplucher les légumes avec sa tante. La jeune Hélène regarde avec crainte les mendiantes sur la route. Elle veut échapper à ça et se prépare à servir comme cuisinière. Un destin, a priori, plus heureux pour une fille de son rang. Mais peu à peu, elle révèle un caractère indocile. On l'accuse même de méchanceté. Des années plus tard, ces mauvaises farces d'adolescente, racontées par une autre domestique, résonnent bien funestement.
La fille Jégado a montré, pendant son séjour chez Monsieur Conan, un caractère difficile, violent. Marie-Joseph Le Rouzic, qui était alors gardienne des bestiaux au presbytère, dormait avec cette dernière. Elle fut obligée de quitter son lit, soit parce que la fille Jégado l'en avait chassée, soit parce que la même fille avait cru devoir quitter le lit pour se soustraire à ses actes de malice. Marie-Joseph Le Rouzic se plaignait aussi que la fille Jégado avait mis de la graine de chanvre dans sa soupe.
En 1833, Hélène Jégado a 30 ans. La France est redevenue une monarchie, sans que ce changement de régime, évidemment, n'ait modifié le quotidien de la cuisinière. Elle travaille depuis 19 ans pour le compte du père Conan, quand celui-ci la renvoie. La jeune femme commence alors à boire de l'alcool, trop et trop souvent, et son caractère ombrageux indispose les autres employés du prêtre. Hélène perd soudainement le peu qu'elle a, son travail, mais aussi son logement, ses connaissances, sa stabilité. Alors, il lui faut quitter ces liens, où elle a passé la majeure partie de sa vie, mais qui est devenue comme une impasse. Elle prend conscience aussi de sa condition. Elle est interchangeable, insignifiante. De maison en maison, de famille en famille, la jeune femme part alors à la recherche d'un endroit où trouver sa place. C'est le début d'une dérive criminelle sans précédent à travers la Bretagne. En juin 1833, Hélène Jégadeau trouve une place de cuisinière auprès de Joseph Le Drogo, le curé de Guerne, à 3 heures de marche par la campagne. Mais dans les 3 mois qui suivent son arrivée, 7 personnes trouvent la mort de manière foudroyante en quelques jours, parfois en quelques heures. Le curé lui-même, âgé de 37 ans, ses parents, sa nièce de 7 ans, 2 femmes qu'il loge ainsi que la sœur d'Hélène venue assister aux obsèques de l'homme d'église. Maux de ventre, vomissements intenses, dégradation rapide des patients. Pour le médecin, il n'y a pas de doute, les symptômes sont ceux du choléra, dont l'épidémie de 1832 vient de se tarir. Hélène, seule rescapée de l'hécatombe qui a frappé la paroisse de Guerne, déménage à Bubry, à 11 km vers le sud, où elle retrouve sa tante, Marie-Jeanne, chez l'abbé Loraux. Mais quelques mois après son arrivée, la tante d'Hélène décède, bientôt suivie par la sœur, puis la nièce du religieux. De nouveau, les symptômes rappellent le choléra. 18 ans après les faits, une parente de l'abbé se rappelle.
Quelque temps après, nous entendîmes dire que la domestique Hélène Jégadeau, qui était chez M. Loraux lors de la mort de sa sœur et de sa nièce, avait été mise par lui à la porte à cause des nombreux vols dont elle s'était rendue coupable. Elle avait enlevé tout le linge de corps des 2 décédés. Monsieur le recteur, en fouillant sa malle et la paillasse de son lit, y trouva une grande quantité d'herbes vénéneuses.
Ces herbes vénéneuses pourraient être de la ciguë ou de l'aconite, des plantes toxiques qu'on trouve dans les zones humides et boisées de l'Argoite, la Bretagne intérieure. Le père Loraux, lui-même malin d'un temps, ose à peine le formuler. Et si Hélène Jégadeau avait fait usage de ces plantes? Mais après 2 ans à son service, la jeune cuisinière disparaît. Elle dépose son baluchon à 36 km vers l'ouest, à Locminé. 36 km à l'époque, c'est beaucoup. Et personne n'a entendu parler d'Hélène Jégadeau quand elle trouve une place d'apprentie blanchisseuse chez Jeanne Le Boucher, une lingère. 2 semaines après son arrivée, la sœur et la mère de son employeuse sont terrassées par un mal aux symptômes désormais bien connus d'Hélène, des vomissements et de terribles douleurs à l'estomac. Jeanne Le Boucher se souvient auprès du juge de paix de Locminé en 1851.
Hélène sortit de chez moi vers la fin de janvier 1834 en disant qu'elle craignait d'être accusée de la mort de mes parents par la rumeur publique. Pendant la maladie de ma mère, Hélène me dit un jour « Je crains que votre mère ne vienne à succomber, car partout où je vais, la mort me suit. » Et elle me dit qu'à Bubry, plusieurs personnes étaient mortes dans les maisons qu'elle avait habitées.
Alors au village, on se questionne. La fille Jégadeau a-t-elle la poisse ou les foies blancs, comme on dit à l'époque, pour désigner les traîtres? Afin d'expliquer la mort de la mère et de la sœur de Jeanne Le Boucher, le docteur Toursin, lui, penche pour une gastro-hépatique aiguë. Ses propres parents, M. et Mme Toursin, embauchent à leur tour Hélène Jégadeau comme cuisinière. Et ils ne tardent pas à perdre la vie, avec leur fille et leur domestique, emportés par des coliques et des vomissements extrêmement douloureux. Hélène, pense le docteur, a peut-être aggravé le mal en administrant ses remèdes qu'elle prépare elle-même. N'a-t-on pas retrouvé chez Jeanne Le Boucher des poudres que la cuisinière utilisait pour se soigner? Mais si le médecin envisage la possibilité d'un empoisonnement involontaire, loin de lui l'idée d'un assassinat. Hélène est une bonne catholique qui veille consciencieusement sur les malades. Et pourtant, en 2 ans, il y a eu 17 morts dans les 5 maisons où elle est passée. Essentiellement des personnes pour qui la cuisinière travaillait, parfois leurs proches et plus rarement leurs domestiques. Enfin, ça fait beaucoup. À la fin de l'année 1835, Hélène Jégado, 33 ans, est acceptée comme pensionnaire au couvent du Père Éternel à Auray, un joli bâtiment avec une cour intérieure qui fleurit au beau jour. Elle n'y reste que quelques semaines, mais on se souviendra d'elle, comme l'explique la sœur supérieure du couvent.
Il y a 15 ou 16 ans, Hélène Jégado vint pensionnaire à la maison de retraite à Auray, dite maison de charité de Saint-Louis. Elle n'y resta que 3 ou 4 mois. Cette fille apprenait à lire et à écrire. Elle ne s'occupait ni de la cuisine, ni d'aucun autre travail dans la maison. Je l'ai renvoyée, parce que les pensionnaires en avaient peur, après que leur harde avait été découpée au ciseau. Nous n'avons pas pu obtenir la preuve que ce fut Hélène Jégado, l'auteur des dégâts. Mais après son départ, rien de semblable n'est arrivé.
Après sa retraite écourtée au couvent du Père Éternel, Hélène Jégado se met à porter un chapelet avec une grande croix. Elle veut, affirme-t-elle, entrer dans un ordre religieux. Une piété, sincère ou de façade, qui en tout cas convainc Anne Le Corbeck, chez qui Hélène Jégado entre en décembre 1835. Eh bien, la maîtresse de maison meurt 3 jours après que la cuisinière lui a confectionné une soupe d'herbe, sa spécialité. Puis Hélène Jégado démissionne avant de réapparaître à Auray chez le couple Eiffel, les beaux-parents du futur maire Julien Le Doré. Lors d'un dîner mondain, deux prêtres la reconnaissent en cuisine et donnent l'alerte. On dit que cette fille use de sortilèges, que des gens meurent partout où elle passe. La famille Eiffel ne croit pas à ces superstitions des gens du peuple. Mais Julien Le Doré la congédie, malgré tout, après 8 jours au service de ses beaux-parents.
Le lendemain donc du repas, le 19 février 1836, de grand matin, j'intimais de manière péremptoire à Hélène l'ordre de sortir sur le champ. Elle poussa alors des hurlements affreux. Elle se jeta à plat ventre, le visage dans les mains, sur la table de cuisine, au milieu de hurlements qui effrayèrent tous les voisins. Et à l'instant, je fis porter à la basse-cour et jeter au fumier tout ce qu'elle avait préparé, d'avance, d'aliments pour la journée. Madame Eiffel fut prise subitement de vomissements, et elle mourut le mardi, après le repas.
De village en village, d'employeur en employeuse, un modus operandi se dessine. Lorsqu'elle arrive dans une nouvelle maison, Hélène Jégado se montre d'abord sous son meilleur jour, pieuse, travailleuse, attentionnée. Elle se donne sans compter auprès des nombreux malades qui croient sa route, surtout les femmes, employeuses et domestiques, et pleurent beaucoup leur mort. Mais la Jégado finit toujours par partir ou par être renvoyée, parce qu'elle boit ou qu'elle s'entend mal avec ses collègues. Il lui suffit alors de changer de village pour repartir de zéro. La distance atténue les éventuelles rumeurs à une époque où les nouvelles vont moins vite qu'aujourd'hui. À 33 ans, elle poursuit donc sa mortelle randonnée dans le Morbihan, à Pontivy, puis à Hennebon. 3 personnes, dans 3 maisons, y meurent successivement des suites de violents vomissements. Émile, 14 ans, un garçon ombrageux et violent que la cuisinière n'apprécie pas. Monsieur Kerali, un homme âgé à la santé fragile. Puis Madame Véron, chez qui Hélène a travaillé 2 ans, un record pour la cuisinière au parcours bien plus chaotique que catholique. Personne ici ne la soupçonne. Et Hélène s'en va sans heurts trouver du travail ailleurs. Au printemps 1841, elle trouve une place de choix à Lorient, chez Claude Dupuis de Lôme, chevalier de la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Mais sans prévenir, la famille déménage au château de Soie, une résidence secondaire isolée qui oblige Hélène à de longues marches pour se rendre au bourg. Malgré son mécontentement, elle prend soin de la petite fille du couple, qui se remet de la rougeole, une maladie infantile souvent fatale au 19e siècle. Marie, 2 ans et demi, se met un jour à vomir après qu'Hélène lui a servi une réconfortante soupe au lait. Indigestion, conclut le médecin, sans se douter que la fillette décédera quelques jours plus tard. Et bientôt, c'est tout le château qui tombe malade. 10 ans plus tard, Madame Dupuis de Lôme répond au juge d'instruction Hippolyte Vanier.
Le jour de l'enterrement de cet enfant, ma fille, Madame Brégé, prit une tasse au chocolat. Elle eut des vomissements presque aussitôt. Elle a continué à être malade à Soie pendant son séjour qui a duré jusqu'au 9 juin. Quelques jours après, M. Brégé, mon gendre, fut pris par les vomissements. Il se crut avoir été empoisonné, et ne voulut plus manger que des œufs à la coque. On se détermina à quitter la campagne de Soie et à retourner à Lorient.
Les repas qui ont eu lieu à Soie pendant votre séjour, étaient-ils préparés par la fille Jégado, seule ?
Oui, c'était notre cuisinière.
Au château de Soie, Hélène Jégado s'occupe successivement de 6 malades, soit l'intégralité de la famille ainsi qu'une domestique. Tous et toutes survivront, à l'exception de la petite Marie. Pour la famille Dupuy-de-Lôme, il s'agit d'un empoisonnement accidentel, peut-être lié à une mauvaise stérilisation des casseroles de cuisine. Un drame, certes, mais pas un acte criminel. Résumons. Séglien, Guerne, Bubry, Locminé, Auray, Plumeret, Pontivy, Hennebon, Lorient, Plumeur, puis Port-Louis et Vannes. En 15 ans, Hélène Jégado aurait tué au moins 25 personnes. Mais après 1841, la course funeste de la cuisinière semble s'arrêter. Aurait-elle cessé d'empoisonner ? Hélène Jégado est tantôt cuisinière, gardienne, fille de ménage chez une dizaine d'employeurs, qui remarquent d'abord son labeur, son intelligence, sa piété. Elle semblerait même changer, assagie s'il n'y avait pas l'alcool. Un mal profond dont à 40 ans, solitaire et sans le sou, elle semble incapable de se défaire. Elle vole régulièrement du linge, de petits objets et surtout du vin. Et puis, elle peut se montrer très irritable, médisante et agressive. En 1848, à Vannes, plus personne ne veut lui accorder sa confiance. Elle quitte alors son Morbihan natal pour rejoindre Rennes, et c'est là que son destin va basculer.
Avez-vous pensé au poison pour se débarrasser de ce garçon, pour envoyer dans les oignons cet insupportable petit con? Avez-vous donc quelques notions de chimie, là est la question. Car pour une bonne potion, faudrait connaître les proportions. N'est pas empoisonneuse qui veut, non. Préparerai à 11h pour lui un bon bouillon d'11h qu'il enverra brouter les fleurs par la racine pour son malheur, pour ne pas éveiller de soupçons. Choisissez bien votre poison. Les baies de ce simple buisson font merveille en extrême onction. N'est pas empoisonneuse qui veut. Ce sera insinué. Trois gouttes suffisent dans son thé pour l'envoyer en jet privé. Et vous serez enfin heureuse. Oui, vous serez enfin heureuse.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Hélène Jégado, empoisonneuse en série.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Hélène Jégado arrive à Rennes le 1er mars 1848, alors que la France connaît un nouveau bouleversement politique. Louis-Philippe vient d'abdiquer, et c'est la fin de la monarchie de Juillet et le début de la Deuxième République, ce qui ne change rien dans la vie d'Hélène Jégado, évidemment. À Rennes, la cuisinière, âgée de 45 ans, découvre une ville bien plus grande et bien plus riche que les villages du Morbihan qu'elle a connus, bien sûr. Devant elle, un avenir nouveau, l'inconnu, le changement peut-être. Mais dans la capitale bretonne, comme ailleurs, le mauvais sort semble s'acharner sur les familles qu'elle sert. Enfin, le mauvais sort, ou son caractère mauvais. À chaque fois qu'elle connaît un désaccord ou un conflit avec ses employeurs, Hélène Jégado semble faire usage du seul pouvoir qu'elle possède. La reine de l'empoisonnement va donc empoisonner à Rennes. En novembre 1849, elle est employée comme cuisinière chez M. et Mme Rabot. Leur fils, Albert, 9 ans, se remet difficilement d'une fièvre typhoïde qui le contraint à rester alité depuis des semaines. Rapidement, le petit garçon n'hésite pas à le dire haut et fort. La fille Jégado sent mauvais et il regrette la bonne qui s'occupait de lui avant. Entre Mme Rabot et Hélène, blessée dans son orgueil, l'ambiance se tend.
La nommée Hélène est entrée à notre service le 6 novembre 1849. Elle n'a pas toujours agi avec déférence, avec honnêteté. Un jour, elle m'a répondu d'une manière excessivement grossière, après l'avoir chargée de nettoyer une lampe. Elle m'a fait peur. J'en ai prévenu mon mari, qui lui a fait des observations qui ont été mal reçues. Mon enfant étant malade, je lui ai entièrement abandonné les soins de la cuisine.
La cuisine, c'est le domaine d'Hélène Jégado. À l'abri des regards, elle peut y préparer ses fameuses soupes, qu'on dit très bonnes, et d'autres concoctions dont elle a le secret. Le 29 décembre 1849, le jeune Albert succombe des mêmes symptômes que ceux qui saisissent bientôt sa mère et sa grand-mère. Des vomissements soudains ainsi qu'une paralysie des mains et des pieds. Le docteur Pinault, appelé à leur chevet, reste perplexe face à la violence de cette maladie qu'il ne reconnaît pas. Mais Madame Rabot et sa mère se rétablissent après le renvoi d'Hélène, qui a été surprise volant du vin à la cave. Même scénario auprès des époux Ozanne. Vol, menace de renvoi et mort du jeune fils âgé de 5 ans. Chez les Roussel, mère et fils, les tenanciers de l'hôtel du bout du monde, l'hôtelière tombe malade après avoir reproché à Hélène la saleté de sa cuisine. Et les patrons ne sont pas les seuls concernés par cette fatalité qui s'abat sur toutes celles et tous ceux qui déplaisent à la cuisinière. Au mois d'août 1850, c'est une autre employée de l'hôtel, Pérotte Massé, qui est prise de vomissements après avoir mangé une soupe d'herbe préparée par Hélène. Pérotte Massé n'aime pas beaucoup cette vilaine bretonne qui le lui rend bien. Ses amis, Anne Cossard, marchande de poulet, et Reine Pouillotte, tailleuse, témoigneront.
Hélène l'a soignée avec beaucoup d'empressement. Elle lui a apporté soit des tisanes, soit tout autre remède. Je demandais à Pérotte ce qu'elle avait ainsi à vomir. Elle me dit bien des fois qu'elle avait du dégoût pour tout ce que lui donnait Hélène. Il me semble, ajoute-t-elle, que ce qu'elle nous donne à boire me ronge bien plus que ce que me donnent les autres. Mais ce sont peut-être des idées de malade. Quand elle la voyait entrer, « Oh, voici encore Hélène !» disait-elle.
Cataplasme, sangsues et opiacés n'y font rien. Pérotte Massé décède après de terribles douleurs à l'estomac. Renvoyée, Hélène Jégado trouve alors une place chez Théophile Bidard de Lanoë, avocat renommé à Rennes et spécialiste des affaires criminelles. Un comble pour une meurtrière. Alors, erreur de jugement ou appel du pied au destin, c'est en tout cas la fin des pérégrinations assassines d'Hélène Jégado. Chez Maître Bidard, la cuisinière doit rendre des comptes à Rose Tessier, une femme de chambre. Mais à 47 ans, elle ne supporte pas être la subordonnée d'une femme plus jeune. Alors une fois de plus, Hélène Jégado va jouer la seule carte qu'elle a en main, la mort. Le dimanche 3 novembre 1850, Rose Tessier se met à vomir aussitôt après le repas. ce qui inspire au docteur Pinault deux diagnostics, une rupture soudaine du diaphragme ou, il ose à peine le dire à son confrère, un empoisonnement. Mais l'idée semble saugrenue, qui donc voudrait empoisonner la gentille Rose? Et pourquoi? Reste que la femme de chambre meurt le 7 novembre 1850, bientôt remplacée par Rosalie Sarrazin, 19 ans, un caractère bien trempé. Quand elle tombe malade, elle aussi, les médecins sont interpellés.
Le dimanche 29 du mois dernier, je sortais avec M. Pinault de l'Hôtel Dieu. Il me parlait de l'état alarmant dans lequel se trouvait la domestique de M. Bidard. Il me disait qu'il y avait une similitude frappante entre la marche de sa maladie et les symptômes qu'avait présentés la maladie de Rose le mois de novembre dernier. Nous restâmes convaincus qu'il s'agissait d'un empoisonnement dû à une substance âcre et irritante dont il nous était impossible de préciser la nature. Nous invitâmes M. Bidard à conserver les déjections de sa domestique, lui exprimant l'opinion que, si la malade succombait, il y aurait nécessité de faire pratiquer une autopsie.
Le 1er juillet 1851, Rosalie Sarrazin meurt dans de terribles souffrances comme les autres. Aussitôt conduite, les analyses chimiques demandées par les médecins confirment la présence d'arsenic dans ses organes. Monsieur et Madame Bidard de Lanneau sont sous le choc. Qui a empoisonné cette jeune femme et pourquoi? Rose Tessier a-t-elle été assassinée, elle aussi? Les soupçons se tournent rapidement vers Hélène Gégado, la cuisinière de la famille, dont l'arrivée coïncide avec le début de la maladie de Rose. On se souvient aussi de la démission de Françoise Uriot, une autre femme de chambre, atteinte des mêmes symptômes que Rosalie Sarrazin. Toutes trois n'entretenaient-elles pas des relations, disons, difficiles avec la cuisinière? Les docteurs Guyot et Pinault alertent alors le procureur de la République de Rennes, qui va immédiatement prendre l'affaire très au sérieux. Avec son greffier, un commissaire et deux agents de police, le juge d'instruction Hippolyte Vanier perquisitionne l'hôtel particulier de M. Bidard de Lanoë le 1er juillet 1851. Dans les affaires d'Hélène Gégado, il retrouve des fioles remplies de liquide indéfini, une petite pompe en caoutchouc maculée de poudre blanche et une pommade brunâtre dans un pot de faïence. Hélène Gégado est placée en état d'arrestation et entendue sur le champ. Convaincu de sa culpabilité, le juge espère obtenir des aveux et surtout comprendre le mobile des crimes qu'il lui impute. Mais l'accusé nie tout en bloc, comme on le comprend dans cet extrait du compte-rendu d'interrogatoire.
Cela ne me fait rien qu'on ait trouvé de l'arsenic. Je ne le connais pas et Dieu me préserve de le connaître. Qu'est-ce que cela me fait, ce que disent les médecins? J'ai dit dès le premier instant, et je répéterai toujours, que je suis innocente. Vous m'amèneriez 2000 personnes, que je le soutiendrai toujours. Vous me direz ce que vous voudrez. Vous ne me ferez pas peur et je ne changerai pas de couleur pour cela. Je défie qu'on trouve un témoin qui m'a vu donner du poison à qui que ce soit.
Alors que la procédure se heurte au silence plein d'aplomb de l'accusé, le juge Hippolyte Vanier reçoit une lettre qui va changer le cours de l'affaire. Elle vient de Pontivy, dans le Morbihan, où le procureur de la République a eu vent de plusieurs morts suspectes, survenues quelques années auparavant. Pontivy, c'est là que vivent deux anciens employeurs d'Hélène Gégado, M. et Mme Joanneau. Ils ont perdu leur fils, Émile, d'un mal intestinal aussi soudain qu'inexpliqué en mars 1836, souvenez-vous. Hippolyte Vanier confie alors à des juges locaux le soin de retracer le parcours de l'accusé dans le Morbihan. En tout, plus de 150 personnes sont entendues dans deux procédures à la fois parallèles et imbriquées. 150 témoins qui n'ont pas oublié cette femme singulière, dérangeante, qu'on accuse de dizaines et de dizaines d'empoisonnements à l'arsenic. Car l'arme du crime, du moins dans le cas de Rosalie Sarrazin, de Rose Tessier et de Perrotte Massé, dont les cadavres relativement récents pouvaient être autopsiés, c'est bien l'arsenic. Un poison chimique qu'on trouve au 19e siècle dans la morora, mais aussi dans les teintures textiles de couleur verte. L'arsenic est un produit facile à trouver chez les apothicaires, qui en vendent librement à condition de tenir un registre des ventes. Mais à Rennes, à Vannes, où aurait aucun registre ne mentionne Hélène Gégado. Et un seul témoin, parmi des centaines, parle d'arsenic. C'est Françoise Uriot, l'ancienne femme de chambre de M. Bidard de Lanoë, comme en atteste une lettre du juge d'instruction Hippolyte Vanier au procureur général.
Françoise Uriot m'a déclaré qu'en effet, elle avait vu Hélène, vers l'époque de Pâques de cette année, employée de la mort au rat. Elle a ajouté que cette préparation, qu'Hélène étendait sur du pain grillé, était une sorte de graisse répandant une odeur extrêmement désagréable, analogue à celle des allumettes chimiques, mais bien plus forte. Qu'enfin, cette graisse dans l'obscurité émettait une lueur bleuâtre. Il est impossible de se méprendre sur la nature de cette pâte qui ne pouvait être que de la pâte phosphorée, comme il s'en vend chez tous les pharmaciens.
Face au juge Vanier, Hélène Jégado ne se souvient pas de cette étrange tartine qui brille dans le noir. D'ailleurs, ses souvenirs coïncident rarement avec ceux des témoins. Au fil des 13 interrogatoires dont elle fait l'objet, l'accusée maintient ses dires. Elle est innocente. Jamais, jamais elle ne craque devant les témoignages qui l'accablent. Jamais elle ne cède au piège que lui tend le juge. Hélène Jégado ne reconnaît qu'une seule chose, les vols. Oui, enfin, des torchons, des thés d'oreiller, un couvre-pied en soie jaune, une cuvette, un pot à eau, de l'eau de vie, un parapluie, enfin de menus objets. Jamais de bijoux ou de biens précieux. D'ailleurs, la plupart des foyers où elle travaille sont modestes. Alors certes, elle chaparde, mais le vol n'explique pas les meurtres. À l'issue d'une procédure de 3 mois, le juge n'a donc aucune réponse claire concernant le mobile. Mais le nombre des témoins et la similitude des affaires suffisent à renvoyer Hélène Jégado devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, où elle risque la peine maximale, la mort, la décapitation. 4 jours avant le procès, l'histoire politique française vient croiser le destin d'Hélène Jégado. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Deuxième République, devient l'empereur Napoléon III. Et sans ce coup d'État, le procès d'Hélène Jégado aurait sans nul doute occupé les colonnes des journaux de la France entière. Et la Gazette de France, organe royaliste, est alors l'un des rares journaux nationaux à relayer l'affaire.
Cette affaire n'a pas d'égal dans les annales judiciaires, tant par le nombre des empoisonnements que par l'audace, la persévérance et l'horrible habileté avec laquelle le poison a été administré aux victimes. Aussi, malgré les événements politiques, l'enceinte de la grande salle des assises est encombrée de bonne heure par un public nombreux et avide d'émotions. À 10h, la cour prend séance et Monsieur le Premier Président ordonne de faire entrer l'accusé.
L'audience est ouverte.
Un vif mouvement de curiosité se manifeste dans l'auditoire.
Comment vous appelez-vous ?
Hélène Jégado.
Votre âge ?
48 ans, cuisinière.
Votre domicile ?
À Rennes, chez Monsieur Bidard.
Où êtes-vous né ?
À Plouhinec.
Le nombre des victimes présumées d'Hélène Jégado est impossible à déterminer avec précision. Mais la presse parle alors de 43 morts. On en décompte aujourd'hui 36. Pourtant, l'accusé ne fait face qu'à 7 chefs d'accusation pour empoisonnement et 10 pour vol. Les autres crimes sont prescrits, car les délais ne sont que de 10 ans à l'époque. Le 6 décembre 1852, il est environ 10 heures quand Hélène Jégado entre dans la salle d'audience. Enveloppée dans un voile de nonne qui masque son visage, elle parle un mélange de breton et de français avec son jeune avocat, Maître Magloire d'Orange. À 24 ans, il s'est fait connaître pour avoir évité la guillotine à 2 femmes, dont l'une avait empoisonné ses enfants. Malheureusement, les témoins de la défense sont absents. Le docteur Baudin, un républicain spécialiste de l'inflammation des intestins, est mort sur les barricades à Paris, 3 jours avant le procès. Quant au chimiste Raspail, oui, celui du boulevard, toxicologue et républicain, ce qui n'est pas incompatible, lui aussi il a été emprisonné à la suite du coup d'État. Maître d'Orange se retrouve donc bien seul face aux 12 jurés populaires. Pour sauver Hélène Jégado de la peine de mort, il reconnaît sa culpabilité tout en plaidant son irresponsabilité. Sa cliente, dit-il, est atteinte de monomanie, un délire caractérisé par une préoccupation unique, un critère aujourd'hui obsolète.
Hélène est joyeuse dans la prison. Elle rit, elle plaisante, joyeuse. Quand on a laissé derrière soi tant de cadavres, joyeuse. Quand le moment approche où il faudra rendre compte à Dieu de ses crimes. Comment ne pas tenir ma cliente pour une monomane? Comment ne pas dire qu'il y a eu chez elle perturbation morale, trouble du cerveau et partant irresponsabilité? Est-ce parce que Madame Rabault avait rappelé à sa servante qu'il entrait dans ses attributions de nettoyer les lampes du logis qu'elle a été empoisonnée? Je ne puis le dire, car j'entends demeurer sérieux. Alors, hésiterez-vous entre le cachot qui se referme pour défendre à jamais la société contre un criminel et le bourreau qui tue en public pour enseigner au peuple qu'il ne faut pas tuer?
Maître d'Orange s'appuie notamment sur la phrénologie, une théorie pseudo-scientifique qui s'attache à expliquer le comportement des individus par la forme de leur crâne. La constitution du cerveau d'Hélène, explique l'avocat, a empêché le développement de ses facultés morales. Mais ces arguments pèsent peu face au récit accablant des témoins de l'accusation. Le procureur général, M. Guillot de Beaudan, tire notamment parti du témoignage inédit du vicaire de Séglien, où Hélène Jégado a travaillé 19 ans auparavant. À la barre, l'abbé Guinard se souvient. Le père Conan avait acheté de la mort au rat pour se débarrasser des nuisibles dans l'église. Et Dieu sait s'il y en a. Hélène Jégado pour avoir dérobé le produit. Face aux interrogatoires qui se succèdent, et malgré les réactions du public, parfois virulentes, l'accusé ne réagit pas, ou si peu, comme étrangère à ses crimes, étrangère à sa vie. Après 9 jours d'audience et 1h15 de délibération, les jurés déclarent à l'unanimité Hélène Jégado coupable des 17 chefs d'accusation sans circonstances atténuantes. Elle est guillotinée à Rennes le 26 février 1852, devant une foule immense et silencieuse. Une semaine plus tard, une lettre de la défunte, écrite à la veille de son exécution par l'intermédiaire de l'aumônier de la prison, l'abbé Tiercelin, est publiée dans le journal des débats. Juste avant de mourir, Hélène Jégado avoue.
Sur le point de paraître devant Dieu, et voulant autant qu'il est en moi expier mes fautes, je déclare me reconnaître coupable des empoisonnements relatés dans mon acte d'accusation. C'est une femme qui m'a donné le poison dont je me suis servi au début de ma carrière criminelle. C'est d'elle que j'ai reçu des encouragements au crime et des leçons pour le commettre en sécurité. Je n'ai point fait provision d'arsenic dans aucun presbytère. J'en ai acheté à Vannes quand j'ai habité Auray. À Rennes, j'en ai acheté 2 fois dans une pharmacie. Je demande à Dieu pardon et miséricorde. Je demande aussi pardon aux familles qui me doivent leur chagrin. J'ai été bien coupable. J'espère que Dieu me fera la grâce de mourir pénitente.
Pas de mobile, pas de pourquoi, mais des aveux en guise d'adieu et peut-être in extremis le salut. C'est la morale que propose l'abbé Tiercelin à l'histoire d'Hélène Jégado. Un prisme religieux qui imprègne aussi les images d'Épinal diffusées après sa mort. Ses gravures colorées, accompagnées de complaintes chantées, ses cantiques criminels très prisés au XIXe siècle, font d'elle un personnage démoniaque. Sorcière, ogresse ou croque-mitaine, la Jégado entre dans le folklore comme si seule la légende permettait de résoudre l'énigme troublante qu'elle pose au réel. Ses restes reposent au cimetière du Nord, à Rennes, dans la fosse commune.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le cas Hélène Jégado, car c'est vraiment un cas dont nous parlons avec notre invitée Justine Jouet. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes historienne et conférencière autrice du livre « La Jégado dans les pas d'une empoisonneuse en Bretagne », ouvrage publié aux éditions Locus Solus en 2024. Alors vous êtes spécialiste des sorcières, ou plutôt des femmes réputées sorcières, que votre travail permet de réhabiliter, car elles étaient en fait des femmes libres, les sorcières. Elles sont même devenues totems des féministes, hein, parmi les totems des féministes, on est d'accord. Mais là, Hélène Jégado n'est pas une sorcière, vous ne cherchez pas à la réhabiliter. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce personnage ?
Alors déjà, je me suis intéressée au personnage d'Hélène Jégado parce que Le célèbre Jean Tellet en a fait un livre qui s'appelle Fleur de tonnerre, que je conseille d'ailleurs en lecture puisqu'il est fortement intéressant.
Comme tous ses livres.
Tout à fait. Et il l'érige un petit peu en sorcière finalement, puisqu'il en fait une femme qui aurait un culte des pierres levées, qui irait la nuit par monts et par vaux, etc. Et l'idée était, avec ce livre, de dire que Hélène Jégado n'était pas une sorcière, comme le film Fleur de tonnerre le dit, mais bel et bien une empoisonneuse. Voilà. Et il ne fallait pas la réhabiliter, elle, puisqu'on ne peut pas réhabiliter une personne de son genre, mais surtout de réhabiliter les personnes qu'elle a tuées.
Oui, alors justement, lorsqu'on se penche sur le récit d'Hélène Jégado, on est frappé par la répétition des faits, hein, les empoisonnements, leur similitude pendant près de 20 ans. Comment a-t-elle pu passer à travers les mailles du filet pendant plus de 20 ans ?
C'est assez incroyable. Déjà, on peut dire qu'Hélène Jégado fait des boucles un petit peu, puisque lorsqu'elle arrive dans une maison, elle abat toujours le travail de plusieurs personnes. Comme ça, elle se fait bien aimer. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles elle s'en est sortie, puisque quelqu'un qui soigne ne peut pas être finalement soupçonnée. Et en plus de ça, elle est relativement nomade. L'information va beaucoup moins vite. Donc le temps que quelqu'un se dise « je suis malade, j'ai été empoisonnée » et qu'il donne l'alerte, elle avait déjà un coup d'avance et ses patrons découvraient qu'elle n'était plus à leur service, mais qu'elle avait déjà une autre maison.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Le vrai mystère dans cette histoire, c'est le mobile, évidemment. Alors, on compare souvent Hélène Jégado à Langcou. C'est une figure mythologique bretonne, où la grande faucheuse frappe au hasard. Mais est-ce que Hélène Jégado frappe au hasard ? Alors, plusieurs mobiles ont été avancés, vengeance sociale, ressentiment, folie, désir de pouvoir. À la lumière de votre travail, qu'est-ce qui vous semble le plus probable comme hypothèse ?
Alors, je pense que le plus probable est qu'Hélène Jégado s'apparente à un mélange entre le syndrome de Munchausen et ce qu'on appelle l'ange de la mort en criminologie. Quand on observe comment elle empoisonne et surtout à quelle fréquence, on voit que dès que quelqu'un lui dit quelque chose qui ne lui convient pas, elle empoisonne. Et dès qu'elle est soupçonnée, elle se retire et retire l'empoisonnement. Et puis c'est quelqu'un aussi qui, donc un ange de la mort, c'est un petit peu le pompier pyromane si vous voulez, ou le médecin qui est censé soigner, qui empoisonne. Et donc là, eh bien finalement, Hélène, elle va décider de qui vit ou qui meurt. Un syndrome de Munchausen, c'est-à-dire qu'elle va empoisonner pour pouvoir s'occuper des personnes après, et ainsi exister dans la maisonnée. On peut compter sur elle pour aller faire les courses, chercher les médicaments, qui au passage sont empoisonnés entre ses mains, pour être sûre qu'elle ne loupe pas son coup. Quelque part, elle prend ce qu'elle n'a jamais eu, c'est-à-dire un rôle social dans une famille et une condition qu'elle n'a jamais eue. Elle va voler des draps, des mouchoirs, de l'argenterie, ou alors occuper une place qu'une domestique a, etc. Donc vraiment s'accaparer les choses. Après, ça n'exclut pas qu'il y ait un désordre psychiatrique derrière.
Alors, concernant le bilan de ces victimes, parce qu'on avance plusieurs chiffres, 30, 40, d'autres 80, qu'est-ce qu'on peut retenir de plus plausible ?
Moi, je me suis basée sur la procédure judiciaire, donc sur l'excellent travail d'Hippolyte Vanier, où lui, il a pu identifier 56 victimes.
Ah, quand même, 56.
56, donc dont 32 décès, ce qui fait, alors des fois on me dit un pourcentage de réussite de 50%. Il y a eu des victimes qui sont voulues, et puis il y a des victimes collatérales. C'est-à-dire que quelqu'un passe à la maison où vit Hélène Jégado, et puis emporte une bouteille de cidre, elle en boit, elle est empoisonnée, elle en donne à ses petites filles, elles sont empoisonnées. Donc j'ai retenu, voilà, vraiment, j'ai préféré brasser large pour l'éventail des victimes. Et puis, il y a une victime qui a été ajoutée aussi, parce que vous avez parlé de Marie Brégée, qui avait 2 ans et demi, qui était la plus jeune victime avant que je n'enquête. Mais il y a eu en fait une femme qui était enceinte, donc vous avez parlé de la famille Rabot. Et Madame Rabot, non seulement ils ont perdu leur petit garçon, mais elle était enceinte et elle a perdu son bébé. Donc Hélène Gégado, finalement, est quelqu'un, d'une, on ne peut pas s'attacher à elle, et puis de deux, elle fait preuve d'une monstruosité assez incroyable, même envers les enfants, et encore plus envers les femmes enceintes.
Alors parlons du procès.
Alors, le procès, il est vraiment percuté par l'actualité nationale. Je pense qu'aujourd'hui, Hélène Gégado serait vraiment beaucoup plus connue.
On rappelle hein, l'espace-temps dans lequel elle vit, passe de Napoléon à la monarchie, puis de la monarchie à la Deuxième République, puis au Second Empire. C'est une période politiquement très, très, très bousculée. Hein.
Oui, tout à fait. Finalement, vous disiez dans le récit que dans la vie d'Hélène Gégado, ça n'a pas changé grand-chose, mais finalement, pour son procès, si. Donc, le procès, on sait que c'est quelque chose de très important. On va dresser une liste des personnes qui ont perdu la vie. Et puis, ce que fait Madeleine d'Orange, c'est qu'il va dire finalement Hélène Gégado, c'est un monstre de la nature, une erreur de la nature, et en aucun cas elle ne peut être tenue responsable de ces crimes. Sauf que Guillot Dubaudan, qui est en face, dit non, 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 pas du tout. C'est quelqu'un de très sain d'esprit. Et avec le recul, je pense qu'il avait raison. Et finalement, sa tête tombe.
Et puisqu'on parle de tête, on parle de crâne aussi. Lors de l'autopsie, on a cherché sur son crâne la fameuse bosse du crime, pour expliquer la criminalité. Donc ça a eu une influence ou pas ?
Non, pas tellement, puisque donc son corps a été divisé en deux. Il est, elle est.
C'est quoi de le dire, elle a été décapitée.
Oui, elle a été décapitée. Sa tête a été gardée par Faustino Malaguti, qui est celui qui a été en charge en fait des autopsies, puisqu'on a trouvé de l'arsenic dans les corps, et il a tenté de savoir un petit peu si il y avait la bosse. Bon. Ces conclusions n'ont pas été connues, n'ont pas été retrouvées.
Alors pourquoi Hélène Gégado n'est-elle pas plus connue comme Jack l'Éventreur, par exemple, alors qu'elle a tué bien davantage encore l'invisibilisation des femmes. Bon, pour le coup, ça apporte pas trop à conséquence, parce que vous voyez qu'elle rase les murs, vu son bilan. Mais enfin, quand même, pourquoi elle est moins connue ?
Alors, elle est moins connue parce que, bon, déjà, on en a parlé, mais le traitement médiatique a été moindre que prévu. Quand même, rendons à César ce qui est à César, Jean Tellet lui a quand même donné une certaine notoriété. Puisque aujourd'hui, quand les gens ne connaissent pas Hélène Gégado, je leur dis bah, « Est-ce que vous connaissez Fleur de Tonnerre ?» Oui, bon, finalement, c'est l'histoire d'Hélène Gégado. Nous, en Bretagne, Hélène Gégado, elle est assez connue. Véritablement, je pense qu'il y a aussi le fait que ça soit une femme, effectivement.
Bah oui.
Et puis qu'on ne savait pas trop, finalement, combien de victimes elle avait faites, et puis... Voilà.
Vous avez dit nous en Bretagne, vous êtes bretonne ?
Oui,
bon.
De cœur, mais maintenant je me sens bretonne, oui, tout à fait.
D'accord. Eh bien merci, merci de votre
merci,
passage
Fabrice.
Et de vos éclairages, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Hélène Gégado, empoisonneuse en série, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.